faut d'abord préciser qu'on a beaucoup écrit en France pour encenser les intellectuels, mais jamais n'était paru un essai sur ceux qui détestent les intellectuels. L'anti-intellectualisme en France, c'est l'objet de votre livre. Bonjour Sarah Al-Matari.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférences en littérature à l'Université Lumière Lyon 2 et votre livre a pour titre « La haine des clercs », C-L-E-R-C-S, c'est-à-dire la haine des sachants, la haine des personnes instruites. On va peut-être commencer par une définition, on va définir le champ lexical. Quelle définition donnez-vous à l'anti-intellectualisme et par extension aux intellectuels ?
La définition de l'anti-intellectualisme est assez complexe, c'est pour ça qu'il a fallu 400 pages pour essayer de débroussailler un petit peu les chevaux. Ce qu'on peut dire en fait, c'est qu'il y a une première définition que je dirais polémique, qui est en fait la détestation des figures d'intellectuels entendues au sens très large. Et puis il y a une deuxième définition qui est peut-être plus philosophique, qui est en fait la détestation de la raison et l'apologie de ce qu'on peut appeler l'inconscient, la vie, le sentiment, suivant les cas.
Alors cet anti-intellectualisme en France, on pourrait penser au premier abord qu'il est marginal dans cette France qui aime tant débattre, qui aime tant les idées. Or, vous démontrez dans votre livre qu'il y a bien une tradition en France de dénonciation des intellectuels, une tradition d'ailleurs, qui est protéiforme, hein, d'où la complexité et ce livre bien rempli.
Notre pays s'est construit au moins depuis le 19e siècle sur la valorisation des figures d'intellectuels et du coup on a un petit peu relégué, mis en marge toute une série de crises anti-intellectualistes. Ces crises sont nombreuses et j'essaie en fait de les retracer sur la longue durée, sur quasiment deux siècles.
C'est depuis les Lumières en fait, non ? Puisque c'est quand même les intellectuels qui ont été à l'origine de la Révolution.
Exactement. Alors ça commence avec ce qu'on appelle l'antiphilosophie, c'est-à-dire l'opposition aux philosophes, et puis ça se politise progressivement et mon livre en fait commence à peu près à la révolution industrielle. Le postulat de départ, c'est que c'est la révolution industrielle qui crée non pas le travailleur manuel comme on le connaît aujourd'hui, mais aussi l'intellectuel.
On en reparlera, mais ça va opposer forcément les manuels et ceux qui réfléchissent, comme si les manuels ne réfléchissaient pas, mais enfin, on va en débattre. Vous avez pris soin dans votre livre de ne pas associer l'anti-intellectualisme à un seul parti politique en particulier. Les anti-intellectuels, finalement, il y en a autant à l'extrême droite, à l'extrême gauche qu'au centre, hein, c'est bien ça ?
Ils sont partout, et l'idée de ce livre, c'était évidemment de bien insister sur les traditions d'anti-intellectualisme de droite, qu'en général on connaît mieux, on pense par exemple à l'Action française, mais d'aussi souligner que l'anti-intellectualisme a pu être associé à un désir de justice sociale et de partage égalitaire du monde. Et voilà, donc le livre insiste beaucoup aussi sur les traditions de gauche et d'extrême-gauche, notamment les anarchistes.
Mais vous le soulignez, on insiste souvent dans cet anti-intellectualisme à droite, les poujadistes, l'extrême-droite, c'est quand même une détestation des bobos et de leur privilège qui est souvent dénoncé au mépris du peuple. C'est aussi ça qui est un grand marqueur à droite pour l'anti-intellectualisme.
Tout ça se mêle, alors c'est complexe suivant les époques, mais disons qu'après 1945 et la création de l'ENA, la haine de l'intellectuel se mêle à la haine des technos, et puis plus on avance dans la période, on l'a vu au XXe siècle, notamment en 2004 avec ce qu'on a appelé la guerre à l'intelligence, il y a effectivement cette détestation des bobos, des classes aisées, des milieux cultivés qui se greffent.
Mais qu'est-ce qu'on lui reproche en fait à cet intellectuel? C'est de rester au-dessus de la mêlée, d'être donc un peu en surplomb, c'est d'observer sans agir?
On lui reproche tout et son contraire. À vrai dire, il y a toujours plus intellectuel que soi et on lui reproche tout et son contraire. On peut lui reprocher d'être dans l'immobilisme, au contraire d'être trop engagé. On peut lui reprocher d'être trop universaliste ou au contraire d'être relativiste, etc. Et donc c'est toute cette série de nuances, tout ce nuancier que mon livre...
C'est pas des nuances, c'est plus que des nuances. Il y a des contradictions quand même là-dedans. Oui, on peut pas tout lui reprocher.
Effectivement, il y a des, si vous voulez, il y a des grands partages structurants, par exemple l'opposition entre le dire et le faire. Hein, on a les diseux et les faiseux dans un mouvement.
Oui,
récent.
Mais par exemple, à certains moments, les intellectuels descendent dans l'arène. On pense à un exemple qu'on a tous en tête, c'est Sartre à Billancourt en 68. Bon, il est allé voir les ouvriers.
Oui, il y a effectivement toute une tradition d'intellectuels qui vont au peuple, mais ça n'empêche pas d'autres de les critiquer. Le livre insiste beaucoup en fait sur des configurations polémiques et étudie les choses de manière très précise pour montrer qu'en fait il y a une grande réversibilité à la fois des arguments et des acteurs.
Et d'ailleurs, il faut préciser que les attaques contre les intellectuels viennent parfois des intellectuels eux-mêmes.
Essentiellement.
Qu'est-ce que des intellectuels peuvent reprocher à l'intellectualisme ?
Plusieurs choses. Du point de vue philosophique, peut-être ce qu'il considère comme une pensée asséchante. L'idée, c'est que ce n'est pas la raison qui est attaquée. C'est rarement la raison ou l'intelligence en tant que telle qui sont attachées. C'est bien plutôt, en fait, ce qu'on appelle la spéculation, l'abstraction, le dogmatisme. Voilà, donc ça, c'est un premier élément. Et puis ensuite, vous savez, c'est des jeux de pouvoir, des jeux de concurrence. Et finalement, l'anti-intellectualisme, c'est souvent un argument commode qui permet tout simplement de stigmatiser son adversaire.
Aussi parce que certains intellectuels sont un peu des cuistres, non ?
Il y a ça, et puis de l'autre côté, il y a aussi des gens qui aspirent à avoir une position dominante dans le champ intellectuel, mais qui sont frustrés, ont la sensation d'être à la marge, d'être relégués. C'est assez intéressant parce que dans le livre, il y a une grande majorité d'acteurs qui sont soit des journalistes, soit des représentants politiques qui n'ont pas réussi à accéder au poste qu'ils
L'exemple briguaient. Typique, c'est l'affaire Dreyfus avec d'abord Zola. Zola qui est... figure de proue des intellectuels. Or, au début, Zola est un anti-intellectualiste car il a raté une partie de ses études.
Tout à fait. Je me suis beaucoup amusée en fait à déconstruire un certain nombre de mythes nationaux et notamment à rappeler que Zola avait été dans sa jeunesse anti-intellectualiste sur le plan philosophique et qu'il avait fondé une sorte de pédagogie naturaliste fondée sur la lisibilité et le refus en fait de l'abstraction. Et donc il y a tout un chapitre qui est consacré à ce jeune Zola et voilà à ses frustrations, si j'ose dire.
Même ensuite, dans Au bonheur des dames, il va favoriser, mettre en lumière l'entrepreneur au détriment de l'intellectuel qui est malmené dans le
livre.
C'est
une figure à laquelle il s'identifie. Lui-même, il a perdu son père jeune. Son père était un ingénieur. Il va s'identifier à cette figure de père défunt, puis à Hachette, qui va devenir une sorte de patron et de père de substitution. Et donc, il va valoriser cette figure de l'entrepreneur qui agrandit sa boutique et lui-même va agrandir sa petite boutique naturaliste jusqu'à en faire le monument qu'on connaît.
Et les Rougon-Macquart aussi, avec l'industrialisation, avec les grands magasins, là encore... Et la naissance d'un syndicalisme moderne, tout cela, Zola va hésiter entre intellectuel et anti-intellectualisme. Il passera sa vie à hésiter, finalement ?
Je ne sais pas s'il passe sa vie à hésiter. C'est vrai qu'à partir de l'affaire Dreyfus, il choisit assez clairement son camp. Mais du point de vue esthétique, oui, il y a une valorisation de la nature contre la culture, pour le dire vite. Et la construction de cette pédagogie anti-intellectualiste dont je parlais tout à l'heure.
À gauche, au XIXe siècle, parmi les plus virulents contre les intellectuels, il y a le précurseur des anarchistes, Pierre-Joseph Proudhon. Que reproche-t-il aux intellectuels ?
Ce qu'il leur reproche, c'est de prétendre que la théorie est venue avant la pratique, ce qui pour lui est absolument faux. Et il leur reproche aussi d'entériner un partage inégal des intelligences. Il y a chez lui un fort désir de justice sociale. Et donc, il va travailler à démontrer que finalement, ce partage entre intellectuel et manuel est un partage qui est en partie issu de l'opposition religieuse entre le corps et l'âme. Et que ce partage n'a pas lieu d'être.
Je rappelle le titre de votre livre, La haine des clercs, l'anti-intellectualisme en France. Sarah Al-Matari, on va poursuivre cet entretien dans un instant, reprendre avec quelques questions un peu plus d'actualité, l'intellectualisme plus proche de nous. On sait que la révolution industrielle, ça a daté cet anti-intellectualisme. On va se rapprocher du 21e siècle. Il est 8h29.
Le dimanche matin sur France Inter,
remède à la mélancolie.
Eva Bester.
Cette semaine, c'est l'auteur et dessinateur Vooch qui nous dévoile ses antidotes au spleen. Il sera question de course-poursuite, de lavage de voiture, de La Fontaine et de pastafarisme.
Remède à la mélancolie.
C'est tout à l'heure, à 10h, sur France Inter.
Merci d'écouter France Inter.
France Inter. Le 6-9 du week-end.
Notre invitée pendant les 10 prochaines minutes, Sarah Al-Matari, maître de conférence à l'Université de Lyon. Votre dernier livre a pour titre « La haine des clercs, l'anti-intellectualisme en France ». Plus près de nous, quand le président Nicolas Sarkozy reprochait d'inscrire la princesse de Clèves au programme des concours de l'administration, cet anti-intellectualisme revendiqué au plus haut sommet de l'État, ça a eu quelles conséquences ?
Ça a eu une conséquence qui est importante pour moi, c'est le travail de sape de l'université et une dérive en fait gestionnaire dont on paie encore les conséquences. Mais Sarkozy n'est pas le premier, à vrai dire, ça date l'anti-intellectualisme au sommet de l'État, ça remonte à la guerre d'Algérie. Et puis ensuite, il y a d'autres épisodes importants, notamment à l'époque de Raffarin.
Raffarin, par exemple, la France d'en bas, la France d'en haut.
Exactement, la France d'en bas, la France d'en haut. Et puis tout le grand mouvement de mobilisation dans les années, on va dire, 2003, 2004, 2005. Et notamment, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, la guerre à l'intelligence qui avait été dénoncée par une pétition dans ces années-là.
Ça pointe aussi l'éducation, non ? Parce que la princesse de Clèves, en général, par exemple, on étudie ça quand on
Oui, alors, deux choses, évidemment, c'est une critique en bonne et due forme nos méthodes d'enseignement, mais ce que je souligne aussi dans le livre, c'est que la pensée anti-intellectualiste propose aussi des modèles d'éducation alternatifs. Mmh. Et ça, c'est une chose à laquelle je suis très attachée, c'est qu'il y a des pédagogies anti-intellectualistes et l'anti-intellectualisme, c'est très souvent aussi une façon de réfléchir à comment s'instruire, comment s'éduquer et s'élever hors de l'académie et de l'académisme.
Le corps enseignant se pense intellectuel ou bien est anti-intellectuel dans sa majorité ?
Alors, vous voulez dire aujourd'hui ou historiquement ? Sans doute qu'il faudrait faire une enquête de terrain pour déterminer ces choses-là. Ce que je montre dans le livre, c'est qu'il y a un grand nombre d'enseignants tout de même qui développent un discours anti-intellectualiste et que par ailleurs, il y a des anti-intellectualistes qui attaquent très durement l'institution. À la fin du bouquin, par exemple, il y a un passage sur l'après 68 et sur ce qu'on a appelé l'éducastration nationale.
Pour en revenir à Nicolas Sarkozy et son anti-intellectualisme revendiqué, derrière lui, il y avait d'autres esprits, ceux d'Henri Guénaud, ceux de Patrick Buisson. Vous écrivez que ça résonne avec la pensée de Maurice Barrès, c'est-à-dire la figure de proue du nationalisme français, entre le 19e et le 20e siècle. Si on pousse un peu plus loin, quels sont les liens qui existent entre l'anti-intellectualisme et l'antisémitisme ?
Ces liens sont anciens. Ils remontent au moins à Proudhon et à la dénonciation d'une part de la figure de ce qu'on a appelé le juif talmudiste, c'est-à-dire le juif analyste, le juif lecteur. Et il y a ce lieu de commun-là qui va se perpétuer pendant longtemps, l'idée qu'en France, seuls les juifs lisent.
On ne peut pas penser à Alain Finkielkraut aussi, comme exemple à l'heure actuelle.
Et puis aujourd'hui, les intellectuels, dans la même ligne, les intellectuels aujourd'hui se présentent aux élections européennes comme tête de liste en lieu et place des candidats politiques historiques, Raphaël Glucksmann à gauche, l'agrégé de philosophie Jordan Bardella au Rassemblement National. Est-ce que vous y voyez une revanche des intellectuels sur le politique ?
C'est une stratégie, je doute qu'elle soit gagnante à vrai dire. D'abord, j'en vois pas bien la nouveauté parce que finalement, il y a eu beaucoup de politiques issues des professions intellectuelles. Ce qui est peut-être nouveau, c'est qu'on revendique cette appartenance, qu'on la mette en avant de façon stratégique. Cela étant, avoir écrit une poignée d'essais ou exercer une profession intellectuelle ne fait pas d'un individu un intellectuel.
Quelle définition pourriez-vous donner à l'intellectuel ? Parce que ça, c'est quand même une question, effectivement. Est-ce que c'est quelqu'un simplement qui a publié ? C'est plus que ça, c'est autre chose.
Cette définition, elle a beaucoup évolué. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, on ne se reconnaît plus guère, en fait, dans les figures de maître à penser. Et ce que les gens attendent, me semble-t-il, ce n'est plus un magistère. C'est la déconstruction des évidences, c'est une pensée critique, c'est... voilà.
Agitateur d'idées ?
Oui, agitateur d'idées. Alors, la formule peut-être pas assez précise. En tout cas, pensée critique...
En tout cas, pas installé. Pas quelqu'un d'installé dans la société.
Je dirais installé. Pas quelqu'un qui perpétue en tout cas les évidences et le grand récit. Et c'est une des choses qui m'a frappée d'ailleurs dans le grand débat organisé par Emmanuel Macron. C'est que...
Il n'y a pas de polémique.
Non seulement il n'y avait pas de polémique, mais en plus il attendait une prise de recul, de la hauteur. Il a dit qu'il voulait reconstruire un grand récit politique, idéologique, notamment autour de l'Europe, autour de l'écologie, à un moment où en fait où le peuple attend, me semble-t-il, tout autre chose, de l'immédiateté.
Il y a des jours, le président Macron a convoqué à l'Élysée une soixantaine d'intellectuels et il leur a demandé de reprendre leur place dans le débat public et reprendre leur place dans l'espace public. Ce sont des domaines que les intellectuels avaient désertés ?
Je n'en sais rien. Ce qui m'a semblé tout à fait étonnant, c'est qu'ils ne donnent pas les moyens à ces intellectuels de l'occuper, puisque la politique qui est mise en place vis-à-vis du CNRS, vis-à-vis des personnels enseignants et de la culture en général, ne favorise pas forcément le travail de la pensée. Ce qui m'a aussi étonnée, je voudrais insister sur ça, c'est que Emmanuel Macron a convoqué les intellectuels avec un désir de recul. À un moment, en fait, la demande n'est pas du tout celle-là. C'est une demande d'immédiateté, c'est une demande, d'ici et maintenant. Et donc, il y avait un vrai décalage, me semble-t-il, du point de vue des attentes.
Vous avez eu des échos d'intellectuels qui sont sortis de l'Élysée un peu dépités ?
Écoutez, d'après ce que j'ai lu dans la presse, il y avait deux positions. Ceux qui pensaient qu'il fallait y être parce que c'était important et ceux qui se sont sentis pris en otage. Moi, j'aurais tendance à plutôt opter pour la prise d'otage. C'était une opération de communication
Mais c'est ça, parce qu'il n'y a pas eu ça précédemment et c'est pas pour autant que les présidents de la République n'ont pas rencontré des intellectuels, organisé des déjeuners, des dîners.
Avant Emmanuel Macron, vous
avant Emmanuel
Macron.
Absolument,
et c'est tout à fait étonnant parce qu'il aurait pu se contenter de recevoir des visiteurs de soir ou de lire les travaux ou les essais des experts, mais il a voulu mettre en scène et retransmettre au public cette cérémonie. Et c'est cette mise en scène qui me semble assez gênante.
Il y a aussi l'intellectuel lorsqu'il est jugé dangereux, quand les livres sont considérés comme des bombes à retardement. Il faut qu'on se replonge quelques années en arrière au moment de la naissance des mouvements anarchistes. Lorsque les anarchistes iront jusqu'à vouloir reprendre l'argent dans les banques, ça résonne quand même avec ce qu'on vit aujourd'hui avec les gilets jaunes un peu.
Oui, le livre résonne beaucoup parce qu'il y a cette demande de justice sociale qui le traverse. Alors un mot peut-être sur ces mauvais livres et les mauvais lecteurs au 19e siècle, ce sont souvent les lecteurs populaires ou ceux qui sont considérés plus fragiles comme les femmes et les enfants. Et évidemment, la crainte vient du fait que l'enseignement se démocratise très progressivement, et qu'on voit d'un mauvais œil le fait que des gens issus du peuple puissent avoir accès à la culture.
Vous appelez ça dans votre livre le prolétariat intellectuel.
Oui, c'est la formule consacrée, prolétariat des bacheliers ou prolétariat intellectuel, et c'est de la masse que naît la crainte, puisque finalement l'anti-intellectualisme naît à partir du moment où il y a cette démocratisation massive.
La défiance que connaissent en ce moment les journalistes, les politiques et même les scientifiques, accusés d'entretenir un rapport trop vertical, trop du haut vers le bas. Et vous rappeliez Jean-Pierre Raffarin et sa France d'en bas, sa France d'en haut. Est-ce que c'est une version moderne de l'anti-intellectualisme ?
Ça pourrait l'être. Et il me semble qu'aujourd'hui, les gens demandent la création d'espaces de parole partagés et ne supportent plus, en fait, qu'on leur impose d'en haut des vérités. Et les anciennes figures, en fait, de prophètes, de guides, de maîtres à penser, sont devenues, me semble-t-il, obsolètes.
Être intellectuel, c'est être un privilégié aujourd'hui ?
Vaste question. Avoir du temps pour penser, sans doute que c'est un privilège. J'entendais tout à l'heure
Joseph Pontus
dire que voilà, quand il rentrait harassé de l'usine, il prenait le temps parce qu'il fallait bien décrire. Avoir du temps pour penser, c'est un privilège. Et les politiques d'État qui aujourd'hui réduisent drastiquement le temps de pensée des enseignants-chercheurs par toutes sortes en fait de tâches administratives et marginales, je crois mettre en danger la pensée et l'activité intellectuelle.
Eh bien, on se plongera avec intérêt dans votre livre, Sarah Al-Matari, La haine des clercs, l'anti-intellectualisme en France. C'est bourré de références et c'est un beau livre à lire. C'est paru aux éditions du Seuil. Merci beaucoup et
merci.
Bonne journée.